RTE, le journal.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de votre journal de ce jeudi 28 mai 2026. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, certains habitants de la ville de Boutembo, essentiellement les vendeurs exerçant au marché central, se disent ennuyés par certains influenceurs à travers leur comédie, les impliquant sans consentement et parfois avec terreur. À ce sujet, Maître Mary Bokito, avocat après la cour d'appel du Nord-Kivu, appelle les personnes lésées à porter plainte contre ces auteurs. Évaluer la situation sanitaire et renforcer la coordination des actions sur le terrain contre Ebola. Tel est l'objet de l'arrivée ce jeudi 28 mai 2026 à Nitouri du ministre de la Santé publique ainsi que celui de la communication et médias. Entre-temps, le tout premier vainqueur de la maladie à virus Ebola aurait été enregistré dans la même province. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le ministre provincial de l'écologie a clôturé le forum sur les métrologies au service d'une exploitation minière durable en République démocratique du Congo sous l'ordre du gouverneur de cette province, nous dira Dideroy. Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, c'est jeudi 28 mai 2026. Certaines adolescentes sont toujours surprises par l'apparition de leurs premières règles, faute de dialogue autour de ces sujets au sein de leur famille. La question étant toujours considérée comme tabou. À suivre dans ce journal, le dossier complet avec Salomon. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre et les détails, c'est dans quelques instants.
RTE, étoile de l'information, lumière de la région.
Merci beaucoup d'avoir choisi la RTE pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici l'intégralité de votre journal. Au marché central de Boutembo, l'ambiance n'est plus seulement aux ventes. Depuis plusieurs semaines, des vendeurs et des clients affirment être pris à cible par des comédiens et influenceurs venus tourner leurs vidéos et des farces, parfois considérées comme excessives. C'est confié au reporter de la RTE, c'est jeudi 28 mai 2026. Plusieurs citoyens de Boutembo racontent avoir été abordés sans être avertis, parfois avec les objets effrayants, notamment des machettes. Ils se sont exprimés au micro de Light Musonga et Christine Aziz.
S'il se présente avec une machette, alors que des membres de ma famille ont déjà été massacrés, je ne peux pas penser qu'il fait de la comédie. On se bagarre directement sur les champs. Je lui conseille de chercher une autre manière de s'amuser et de créer du contenu. Si je suis orphelin et que je vends des bananes, puis tu veux manger gratuitement sous prétexte des comédies sur TikTok? Non, pour moi, tu dois payer, car je ne connais pas tes histoires de blagues. Directement, cela peut déclencher une guerre. Qu'ils ne viennent pas effrayer les gens, ce n'est pas bien, car une personne peut avoir de l'attention. Qu'ils ne brisquent pas les gens, qu'ils nous préviennent plutôt s'ils cherchent des vues. Qu'ils ne commencent pas à venir pour brutaliser les gens. Nous avons des problèmes cardiaques. Si tu surprends quelqu'un, il peut s'évanouir.
Et toujours dans le même chapitre, filmer une personne ou l'associer dans une blague ou encore dans une comédie, puis le publier sur les réseaux sociaux sans son consentement, cela constitue une infraction punissable par la loi. Ces pratiques peuvent porter atteinte à la dignité, à l'image et à la réputation de la victime et à l'ordre public. C'est ce qu'a indiqué Maître Mary Bokito, avocate près de la cour d'appel du Nord-Kivu. La RTE l'a rencontrée pour comprendre juridiquement les limites des influenceurs qui, en ville de Boutembo, semblent abuser de la comédie en occasionnant publiquement des incidents auprès de tierces personnes. Si quelqu'un se sent lésé, il doit vite porter plainte devant les juridictions compétentes, conseille l'avocat Ange Kavuya, plus de détails.
L'avocate s'appuie sur l'article 74 du Code pénal livre 2 qui sanctionne toute atteinte à l'honneur ou qui expose quelqu'un au mépris. Elle souligne que les créateurs de contenu, les comédiens ou influenceurs doivent tenir compte du respect reconnu à chaque citoyen congolais. Maître Mary Bokito insiste également sur la nécessité d'obtenir les consentements préalables préalable avant de prendre une image ou de contenir impliquant une personne.
Quand vous exercez une activité professionnellement, vous devez rester dans les stricts respects de la liberté qui est reconnue à chacun. Il y a plusieurs infractions quant à ça, parce qu'il y a des faits qui peuvent toucher même à l'attentat ou à l'ordre public. Il y a d'autres propos qui sont diffamatoires de l'article 74. Du code pénal livre D. Cet article dispose ce qui suit. Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris du public. Et donc ce sont des comportements qui doivent être punis, qui doivent être découragés. Ce genre d'activité sur les réseaux sociaux tenait compte du strict respect qui est reconnu à chaque individu.
Ainsi, Maître Mary Bokito encourage la population à développer la culture de porter plainte lorsqu'on se sent nuire par telle ou telle action.
Mais je profite directement à encourager à appeler la communauté. Quand vous trouvez que vous êtes lésé dans une manière ou d'une autre, de la façon dont ces comédiens sont en train de monter leurs vidéos, par exemple, ils vous associent à leur filmage ou bien à leurs activités sans que vous ne soyez au courant ou bien sans votre consentement, venez auprès de juridictions toquer pour que ces comportements soient punis et que, pour que ces gens puissent être interpellés.
Enfin, les juristes encouragent des influenceurs à pratiquer la comédie avec intelligence et professionnalisme, en respectant les bonnes manières pour ne pas nuire et vexer la communauté ou les internautes sur les réseaux sociaux, car là où s'arrêtent les droits des uns, c'est là où commencent les libertés des autres.
Boutembo, toujours résurgence de la maladie à virus Ebola, parmi les catégories les plus exposées figurent également les conducteurs de motos, communément appelés tricycles, bajaj, qui sont à contact quotidien avec plusieurs passagers. Au micro de la RTE Kivu, plusieurs conducteurs de ces motos affirment exercer leurs activités tout en respectant certaines mesures barrières. Vous les écoutez au micro de Christine Aziz.
Nous nous protégeons dans un premier temps. Mon bajaj transporte 5 personnes. Avec la présence du virus Ebola, j'ai commencé à porter 4. Parce que avec 5, on est tellement coincé physiquement. Nous devons avoir de la distanciation. Lorsque je porte 5, mes clients ne sont pas à l'aise. On se sent tellement serré avec tous les risques d'être contaminé par le virus Ebola. C'est mon bajaj. Ma priorité, c'est de me retrouver en bonne santé d'abord.
Oui, nous avons l'information concernant le virus Ebola. Mais nous pensons changer la stratégie de transporter les clients si la situation se dégrade tout en respectant les mesures barrières. Pour me protéger contre Ebola, je me lave les mains régulièrement avant d'aller au boulot, puis je pars avec les désinfectants. Les cache-nez aussi pour me protéger contre ce virus Ebola. Des fois, je profite pour en donner aussi aux clients. Nous portons des cache-nez. Nous nous lavons les mains et nous évitons des fois de nous coller dans les taxis, même si c'est difficile. Mais nous demandons aux gens de ne pas se coller les mains pour éviter le virus Ebola. Car il y a plusieurs risques. Si on ne respecte pas les mesures barrières, on peut tomber malade et être testé positif à cette maladie d'Ebola.
Et pendant ce temps, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Somo Kakule Evariste, a présenté mercredi 27 mai 2026 à Beni les principales mesures engagées dans le gouvernement provincial en fait de faire face à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans cette province. Au cours d'un échange avec la presse, l'autorité provinciale a affirmé que les efforts sont actuellement orientés vers des actions urgentes et stratégiques destinées à contenir la propagation de la maladie à virus Ebola et à renforcer les capacités locales des ripostes sanitaires. Farah Jakato pour plus de détails.
Parmi les initiatives prioritaires figure l'installation d'un laboratoire de diagnostic à Beni. Jadis opérationnel à Boutembo au sein des cliniques universitaires, cet équipement était devenu non fonctionnel avant son transfert à Beni pour réhabilitation. Selon le gouverneur, cette infrastructure permettra de réduire les contraintes liées à l'acheminement des échantillons vers Goma, Bunia ou encore Kinshasa pour analyse.
Pour l'instant, nous sommes occupés à poser certaines actions que nous pensons être urgentes et nécessaires pour faire face à cette maladie, notamment le déploiement du laboratoire. Nous avons un laboratoire au Nord Kivu, ici à le Grand Nord, qui était à Boutembo, mais qui n'était pas fonctionnel. Il a été transporté depuis hier jusqu'à Beni. Il est en pleine installation afin que nous ne puissions plus avoir à envoyer les échantillons à Goma, à Bunia et à Kinshasa.
Parallèlement, Le gouvernement provincial intensifie les dispositifs de prévention aux points d'entrée et de contrôle. Des installations de lavage des mains sont en cours de déploiement dans plusieurs grandes agglomérations, ainsi qu'aux postes frontaliers stratégiques de Kassindi et Kamango, afin de protéger les populations vivant le long de la frontière avec l'Ouganda.
Nous sommes aussi appliqués à installer les dispositifs de lavage des mains à tous les points d'entrée et de contrôle des grandes agglomérations à nos frontières, aussi Kassindi, Kamango et ailleurs. Pour cela, nous encourageons toutes les communautés à sensibiliser davantage.
Le gouverneur a également insisté sur l'importance de la sensibilisation communautaire, appelant les habitants ainsi que les leaders locaux à s'impliquer activement dans les efforts de prévention contre Ebola. Beni Faradja Kato pour la RTE Kivu.
Merci beaucoup Faradja Kato. Et au lendemain de l'annonce des mesures restrictives prises par le gouverneur du Nord Kivu pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola, la communauté des églises du Christ au Congo, SEC Butembo, a réaffirmé son engagement à le faire appliquer. Détail avec Light Musonga.
Réunis en assemblée extraordinaire ce jeudi 28 mai, les membres de l'SEC Butembo ont échangé sur les modalités de leur implication dans la sensibilisation et le respect des directives provinciales, surtout celles qui touchent les églises. Pour les responsables de l'SEC Butembo, ces décisions, bien qu'elles perturbent l'ordre social, mais comme elles visent l'intérêt commun, elles ne doivent pas être bafouées. Prenant l'exemple de baptême par immersion suspendu par l'autorité provinciale, le révérend pasteur Kalipi a appelé ses collègues hommes de Dieu à reporter les cérémonies programmées. Cette attitude pourra contribuer tant soit peu à l'éradication rapide de cette épidémie, a insisté Denis Kalipi, président de l'SEC en ville de Butembo, dans un communiqué rendu public ce jeudi 28 mai 2026. Par ailleurs, le sociologue Théophile Mayani, consulté sur la question, estime que l'essentiel c'est de se conformer aux nouvelles mesures. La situation perturbe l'ordre social, toutefois, il faut se soumettre aux instructions officielles.
On était habitué à tout faire, à public et au sort, mais dès qu'il y a eu des nouvelles mesures qu'il faut mettre en jeu, on ne doit que se courber à ces mesures-là parce que ça ne va pas durer longtemps si seulement si l'on s'y met en âme et conscience. Et si chacun prenait vraiment la question sienne, il prend la question là dont a fait par le gouverneur pour qu'on puisse vite limiter la maladie. Lorsqu'on voit les taux de mortalité très élevés, chacun doit se toucher sur sa peau. Mais c'est question de prendre cette maladie à patience que non. Temporairement, nous pouvons arrêter nos habitudes ou bien nos activités habituelles pourvu que l'on puisse échapper à ces fléaux ici qui n'épargnent personne.
En attendant une réponse plus musclé des autorités compétentes, chacun doit s'assurer de se protéger contre cette épidémie partout où il se trouve, a-t-il déclaré.
En attendant qu'il y ait une réponse vraiment qui soit plus musclée que ce que nous voyons actuellement, j'espère bien que nous devons vivre des expériences du passé. Nous avons vu comment la maladie à virus Ebola qui nous a terrassé les années passées, 2018-2019, nous avons vu comment ça a duré et combien de fois nous avons perdu nos chers. Alors dès lors que tout le monde a mis la main sur la patte, a compris que vraiment il y a un danger à éviter, en tout cas on a appliqué des mesures jusqu'à ce qu'on avait proclamé que la maladie est terminée, il n'y a plus de cas à Butembo et à Beni. C'était déjà une réussite. Maintenant, cette réussite-là qui nous avait amené au succès, nous devons quand même capitaliser ça avant que le gouvernement ou bien les ONG internationales mettent les moyens qu'il faut pour que les gens vraiment se sentent sécurisés.
Notons que l'SEC Butembo entend ainsi mobiliser ses fidèles pour accompagner les autorités dans la lutte contre cette 17e épidémie d'Ebola au Nord Kivu.
Merci beaucoup Light Musonga. Et nous restons au Nord Kivu. Christian Kalamu, cadre de la société civile du Nord Kivu, s'est dit préoccupé par la situation sociale que traverse actuellement la population, précisément les déplacés de guerre en cette période de résurgence de la maladie à virus Ebola. Selon lui, plusieurs familles déplacées de guerre vivent déjà dans une grande précarité et risquent d'être davantage fragilisées par cette nouvelle crise sanitaire. Christine Aziza pour plus de détails.
Christian Kalamu revient d'abord sur les conditions de vie difficiles des habitants. Il affirme que de nombreuses familles déplacées de guerre éprouvent déjà des difficultés à se nourrir au quotidien.
Nous rappelons aux autorités maintenant que la population traverse une situation humanitaire extrêmement difficile. Aujourd'hui, dans plusieurs menaces, je vous dis, trouver à manger est devenu un véritable problème. Les familles vivent entre, imaginez, chômage, déplacement, insécurité et pauvreté aussi grandissante.
Ces cadres de la société civile appellent le gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires à mettre rapidement en place une assistance en faveur de ces familles en détresse, aujourd'hui confrontées à la menace d'Ebola.
Nous demandons au gouvernement provincial et aux partenaires humanitaires de renforcer l'assistance humanitaire aux familles vulnérables, d'appuyer les activités génératrices de revenus, d'accompagner aussi les mesures sanitaires par des actions sociales concrètes, messieurs les journalistes, et d'impliquer les leaders communautaires, et religieux et la société civile dans des sensibilisations pour la lutte contre la propagation d'Ebola.
Pendant ce temps, les habitants espèrent des réponses concrètes des autorités afin de limiter non seulement la propagation du virus, mais aussi les conséquences sociales et économiques de cette épidémie.
Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai. La question du dialogue autour des menstruations reste encore sensible dans plusieurs familles. Entre tabous, gêne et silence, de nombreuses adolescentes continuent à vivre leurs premières règles sans véritable accompagnement. Plus de détails, c'est dans cet élément, nous envoyé par Salomon Kuraoui, Vioué depuis Goma.
Pour beaucoup de jeunes filles, les premières règles arrivent encore dans l'incompréhension et parfois dans la peur. Faute des dialogues à la maison, certaines adolescentes découvrent celles cette étape naturelle sans explication ni accompagnement, ce qui peut entraîner honte, stress ou mauvaises pratiques liées à l'hygiène menstruelle. Dans plusieurs familles, les sujets restent difficiles à aborder entre parents et enfants. Un silence qui laisse encore plusieurs adolescentes sans repère face à cette réalité pourtant naturelle. Prémis Mouissa, expert en santé publique, nous apporte son éclairage.
Ils se retiennent de dire que non, comment moi je vais directement aborder ma fille à parler de ce sujet ici de menstruation. Même si les mamans, chose drôle, ont eu aussi, elles ont aussi vécu ces moments, discrètement bien sûr, veulent encore transposer cette discrétion jusque dans la vie de futures filles qu'elles ont eu à enfanter. Ce qui reste encore un sujet tabou, d'autant plus que même les pères ne peuvent pas aussi beaucoup plus se donner l'audace à les y comprendre que si la maman se retient, qu'adviendra-t-il maintenant pour les pères? Voilà pourquoi ça reste encore tabou dans des communautés où ils considèrent ça encore comme... il y a des communautés qui n'admettent pas encore ça. Et bien sûr, tu as des familles en guise de pudeur entre filles et mères.
Ce manque de dialogue ne vient pas seulement des parents. Chez certaines adolescentes aussi, parler de menstruation reste une source de malaise par peur d'être jugée ou simplement par pudeur. Certaines préfèrent vivre cette période dans le silence, loin du regard familial. C'est le cas de cette jeune fille qui explique pourquoi elle évite d'aborder les sujets avec ses parents.
Pour éviter que les parents calculent des jours. Et pourquoi je parlerai avec eux? Je vois que ça ne les concerne pas et ça ne les intéresse pas non plus.
Briser les silences autour des menstruations reste donc un défi dans plusieurs familles et communautés. Pourtant, spécialistes et acteurs engagés estiment qu'un dialogue plus ouvert, une meilleure sensibilisation et un accès plus facile aux protections hygiéniques peuvent aider les adolescentes à vivre leurs règles avec plus de dignité et de confiance. Salomon Kuraviwe depuis Goma pour RTE Kivu.
Merci beaucoup Salomon Kuraviwe. Rendons-nous à Oicha où un homme résidant à Mamové, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord d'Oicha, dans le secteur de Benimbaou, a échappé de justesse à la mort après avoir rencontré les éléments des forces démocratiques alliées ADF dans son champ à Kisalaba, rapporte la victime. Jado Keya pour plus de détails.
Un agriculteur habitant du village Mamové, dans la localité Babila Bakaïkou, secteur de Benimbaou, nous sommes à territoire de Beni au nord Kivu, a échappé de justesse aux rebelles ADF MTM ce jeudi 28 mai dans l'agglomération de Kisalaba. Selon des sources locales contactées par votre radio, la victime se rendait dans son champ pour les activités agricoles lorsqu'elle est tombée entre les mains des assaillants dans la brousse de Kisalaba. L'agriculteur affirme avoir été surpris par un groupe d'hommes armés identifiés comme des rebelles ougandais ADF opérant dans cette partie du territoire de Beni depuis un certain temps. Monsieur le journaliste, je viens de rater la mort ce matin. Je suis tombé entre les mains des rebelles ADF MTM. Ils parlaient une langue incompréhensible et parfois kiswahili mélangé à l'arabe, a témoigné la victime. Après cette nouvelle alerte sécuritaire, plusieurs habitants de la région craignent une recrudescence des incursions rebelles dans les zones rurales situées autour de Mamové. La victime appelle ainsi les autorités locales et les forces de sécurité à renforcer les dispositifs sécuritaires dans les environs de Mamonvin, Maliajame, Baobo et Beoumanyama afin de protéger les populations civiles. Intervenant depuis Ouitcha, je suis Jado Kia pour la RTE Kivu.
Vous écoutez la RTE 104.7 MHz.
Et notre ronde des provinces commence par la province de l'Ituri où le gouvernement central intensifie la riposte contre l'épidémie d'Ebola en province de l'Ituri. Le ministre de la Santé publique ainsi que celui de la communication et médias séjournent à Bounia depuis l'après-midi de ce jeudi 28 mai 2026 afin d'évaluer la situation sanitaire et renforcer la coordination des actions sur terrain. Reportage Jolie Palmer rendu ici par Gisèle Lukambu.
Selon le ministre de la Santé, le rapport actualisé publié le 27 mai 2026 par le ministère de la Communication et des Médias, la République démocratique du Congo compte désormais 111 cas confirmés d'Ebola, dont 110 enregistrés en Ituri. Le même rapport fait état de 17 décès parmi les cas confirmés, ainsi que de 1077 cas suspects cumulés depuis le début de l'épidémie, a confié le ministre Dr Samuel Roger Kamba.
Pour l'instant, nous continuons d'abord à donner les chiffres de manière brute, de telle sorte que nous puissions retrouver tous les contacts de toutes les personnes qui présentent des symptômes. Et bien surtout pour encourager les prestataires de soins, vous savez qu'ils payent le prix le plus lourd au niveau des centres de santé, parce que nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir et montrer que nous-mêmes, on est très engagés parce que nous voulons nous assurer que tout ce qui est rapporté aussi au niveau des médias correspond réellement à ce qui se passe. Nous sommes les seuls habilités à donner les informations, à donner les chiffres, à donner l'état de la riposte. Et pour cela, nous devons être nous-mêmes sur terrain pour que ce que nous disions corresponde à ce qui se passe réellement sur terrain. C'est beaucoup de personnes qui arrivent, c'est beaucoup de matériel qui arrive. Les communautés se posent toujours la question de savoir ce qui se passe. Et dans toutes les épidémies comme dans celle-ci, c'est vraiment la communication de risque et vraiment les engagements communautaires qui finissent par changer la perception. Et on voit toujours la confiance se bâtir progressivement.
Par ailleurs, un briefing spécial de presse s'est tenu ce jeudi 28 mai 2026 dans la soirée au gouvernorat de l'Ituri. Il a porté essentiellement sur la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, notamment la mission gouvernementale à Bounia, l'état de la situation sanitaire ainsi que les mesures de riposte en cours. Nous y reviendrons.
Et toujours dans la même province, les autorités sanitaires ont annoncé ce jeudi 28 mai 2026 la guérison du premier patient atteint d'Ebola en Ituri, pris en charge dans la zone de santé de Rwampara avec l'appui d'Alima. Le patient a officiellement quitté le centre de traitement après une semaine de soins intensifs. Le responsable de la riposte salue une avancée encourageante et appelle la population à lutter contre les fausses informations liées à l'épidémie. Et pendant ce temps, au sud Kivu, trois cas confirmés de la maladie à virus Ebola sont désormais enregistrés dans la province du sud Kivu et une dizaine d'autres cas suspects font encore l'objet d'investigations. Selon la division provinciale de la santé d'EPS sud Kivu, les deux nouveaux cas ont été détectés dans la zone de santé de Mitimurasa, dans le territoire de Kabare, situé à 30 km au nord de Bukavu. Les personnes touchées sont toujours en vie et bénéficient d'une prise en charge dans un centre des traitements spéciaux. Écoutez le docteur Claude Baizire, chargé des communications de la DPS Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Egide Abalawi.
La province actuellement vient de confirmer déjà trois cas et dont un malade dans nous avons déjà deux malades confirmés qui sont déjà au niveau du centre de traitement et c'est toujours dans la zone de santé du Mitimores. Ce que nous faisons, c'est la communauté qui doit prendre des mesures sanitaire pour limiter la progression des maladies et protéger aussi d'autres membres de la population. Et notre rôle, c'est de continuer à sensibiliser pour ce qui est des mesures barrières, et le lavage correct des mains, et qu'on continue à garder des distances lorsque la personne a de la fièvre. Nous avons déjà placé des points de contrôle et aussi nous avons le point d'entrée où on a placé aussi des équipements de lavage des mains.
L'OMAMI à présent, la division provinciale de la santé de l'OMAMI, DPS l'OMAMI, intensifie la lutte contre le fistule urogénital avec l'appui de la Fondation Panzi. La division provinciale de la santé de l'OMAMI, à travers le programme national de santé de la production PNSR, avec l'appui financier de la Fondation Panzi, a organisé ce mercredi 27 mai 2026 à Cabinda, chef-lieu de la province, une grande manifestation à l'occasion de la journée internationale des fistules obstétricales. Benjamin Loubo, notre permanent dans la province, nous en parle.
Cette activité avait pour objectif de renforcer la sensibilisation, la prévention et l'élimination des fistules obstétricales dans la province de l'OMAMI à travers des actions communautaires, sanitaires et des plaidoyers en faveur de la santé maternelle. La journée a été marquée par plusieurs temps forts, notamment une caravane motorisée partie du bureau de la DPS l'OMAMI parcourant l'avenue Lumumba, avant de chuter à l'Institut d'enseignement médical de Cabinda, où se sont poursuivies les activités officielles. Dans la salle de conférence de cette institution, les acteurs du secteur sanitaire, les partenaires ainsi que plusieurs invités ont échangé autour des stratégies visant à promouvoir la couverture sanitaire universelle avec un accent particulier sur la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Les participants ont également formulé plusieurs recommandations, notamment le renforcement de la surveillance et de l'enregistrement systématique des cas de fistules dans les zones de santé ciblées, la sensibilisation des médecins chefs de zone à cette problématique, l'implication de relais communautaires et de leaders locaux, ainsi que le renforcement des capacités du personnel soignant à travers des formations continues sur la prise en charge des femmes en travail. J'interviens depuis la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de l'OMAMI, Benjamin Loubo, RTE Kivu.
Merci beaucoup Benjamin Loubo. Et au Maniema, le boulevard Joseph Kabila, endommagé par les eaux des pluies diluviennes depuis le 12 décembre 2022, les travaux de la réhabilitation de cette chaussée sont en ce jour exécutés à l'échelle de 80%. La lenteur de l'exécution des travaux qui a pris près de 4 ans est liée au décaissement tardif des fonds, la vétusté des machines de l'OVD, mais également aux prix exorbitants des matériaux de construction. Détail avec Esperanza Sindani.
Malgré que le gouvernement central venait de liquider le paiement de la dernière tranche et n'avait non d'être libéré pour suppléer les coûts des travaux en vue de clore ce dossier qui n'a fait que trop durer. Toutefois, les usagers de cet axe principal de la ville de Kindu disent être satisfaits des travaux fournis par les ingénieurs de l'Office des voiries et drainage OVD en sigle.
Que encourager d'abord l'OVD parce que nous sommes tous surpris dans la ville de voir comment les travaux évoluent et surtout, bon, ce que je peux peut-être recommander au gouvernement provincial et central, de voir un peu, parce que le ciment utilisé et les matériaux utilisés est devenu vétuste. Et quand on utilise cela, c'est qu'on s'attend encore demain à un autre problème. Alors pour résoudre définitivement le problème, donc nous recommandons au gouvernement central et au gouvernement provincial de se mobiliser afin de trouver correctement la solution sur ces travaux qui avancent à pas de géant. Parce qu'aujourd'hui, on croyait qu'il fallait attribuer ça à une entreprise, mais l'OVD vient de prouver en quoi est-ce qu'ils sont capables. Et nous disons félicitations aux ingénieurs impliqués et aux agents de l'OVD.
Pendant ces temps, les travaux de réhabilitation de la route provinciale Kireli Kindu Kibombo, exécuté par l'entreprise Operma, évolue normalement et sont appréciés par l'assistance.
Et Lubumbashi, à présent, le ministre provincial de l'économie, Georges Babouni, a, au nom du gouverneur du Haut-Katanga, Marte Kazembechou, l'a procédé ce jeudi 28 mai 2026 à la clôture du forum sur les métrologies, placé sous le thème « La métrologie au service d'une exploitation minière durable en République démocratique du Congo ». Ces assises ont été organisées par la FEC au centre hospitalier Félix Tshisekedi de Chilombo, situé sur la route Kasenga.
Pendant deux jours, les acteurs du secteur minier, les opérateurs économiques, le médecin et les responsables des entreprises du portefeuille ont réfléchi sur le voie et moyen de recourir à la métrologie pour promouvoir une culture de précision et de fiabilité au service du Congo démocratique. Le ministre provincial de l'économie et commerce, Georges Babounimbao, a représenté le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembechula, à ses travaux organisés au centre hospitalier Félix Tshisekedi Tshilombo sur la route de Kasenga, sous le thème « La métrologie au service d'une exploitation minière durable en RDC ». Le ministre Georges Babounimbao a, dans son mot de clôture ce jeudi 28 mai 2026, souligné l'importance de la métrologie dans la garantie de la qualité et de la sécurité des mesures. Il a précisé que ce forum devra être une occasion de promouvoir la métrologie et en faire un levier essentiel pour une exploitation minière responsable. Aussitôt après, le ministre provincial de l'économie et commerce a visité le stand de l'Office congolais des contrôles chargé depuis plusieurs années du contrôle de la qualité des produits. Lubumbashi, Dede Roy, RTE, Kivu.
Et parlons politique à présent dans cette édition. Retour à présent sur la séance plénière de l'Assemblée nationale tenue hier mercredi 27 mai 2026 à Kinshasa. Les députés nationaux ont entamé l'examen du projet de loi portant sur le référendum, une initiative qui continue à susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Pendant ce temps, le groupe parlementaire Ensemble pour la République a quitté la salle pour exprimer son désaccord avec cette procédure. Déguiste Mouindo pour plus de détails.
Le député Christian Mwando explique que cette décision est motivée par l'effet qu'organiser un référendum alors qu'une partie du territoire national est sous état de siège et occupée par des forces étrangères serait, selon lui, contraire à la Constitution.
Nous avons considéré que cette proposition de loi tendait à contourner les articles 219 et 220 de la Constitution qui interdisent d'abord qu'il y ait un référendum pendant la période de guerre ou pendant la période d'état de siège et il y a certaines matières qui ne doivent pas être touchées pendant la guerre.
Les élus d'Assemblée pour la République affirment se solidariser avec les populations de l'Est du pays. Selon eux, organiser un référendum sans la participation effective du Nord Kivu et du Sud Kivu reviendrait à cautionner la balkanisation du pays.
Nous sommes solidaires avec nos populations à l'Est de la République démocratique du Congo parce que nous considérons que aller vers un processus même de référendum pendant cette période, c'est consacrer la balkanisation de notre pays. Et ça, nous ne pouvons l'admettre.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sankara, défend la régularité de la procédure engagée. Il rappelle que les députés nationaux ont pour mission de légiférer conformément au texte en vigueur.
Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. Donc il ne faut pas chercher à plonger les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en donnant l'impression qu'on est en train d'organiser un référendum ici. L'objet de ce texte aujourd'hui, c'est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale.
Les débats autour du projet de référendum s'annoncent donc particulièrement tendus dans les prochains jours en République démocratique du Congo.
Et pendant ce temps, la coalition C64 annonce l'organisation d'une journée ville morte à Kinshasa le 3 juin prochain. Cette action vise à protéger contre toute tentative de révision ou de changement de la constitution en République démocratique du Congo. Et les détails, c'est dans cet élément d'Espérance Sindani.
Délice Sanga, autorité morale du parti en vol, membre de la coalition C64, appelle à une mobilisation populaire contre ce qu'il qualifie de dérive institutionnelle.
Conformément à l'article 64 de notre constitution, nous en appelons donc au peuple congolais de se mobiliser dans cette première action qui aura lieu le 3 juin, le mercredi, en amorçant la ville morte. À commencer donc d'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos communes, dans les provinces, nous demandons à tous ceux qui sont contre le changement de la Constitution et qui veulent protéger l'ordre constitutionnel de se mettre en ordre de marche pour expliquer à notre population que ce n'est pas le combat du C64 contre M. Tshilombo, c'est le combat de la nation et de la République contre la tyrannie et la dictature.
Ces leaders de l'opposition invitent toute la population de Kinshasa à rester à la maison mercredi prochain afin d'observer cette journée ville morte. Selon lui, cette action marque le début d'une série d'activités destinées à dire non à toute révision ou modification de la Constitution.
C'est pour cette raison que le mercredi, nous demandons aux papas, aux mamans, aux jeunes, femmes, hommes de tous les coins de la ville de Kinshasa de rester chez eux pour manifester leur désapprobation de ce projet et d'être à l'attention, en alerte par rapport au calendrier des activités que l'on va lancer.
Soulignons que les autorités gouvernementales n'ont pas encore officiellement réagi à cet appel lancé par l'opposition.
Mesdames et messieurs, c'est par ce élément que nous mettons fin à cette édition. J'étais Moïse Ndongo à la présentation, la réalisation des héritiers Goupaïka au nom de toute l'équipe rédactionnelle de la RTE Kivu. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Bye bye.